France Culture. Les nuits de France Culture. Ne nous y trompons pas. La voix que nous allons écouter, douce et pleine de l'accent rieur de son Perpignan natal, était bien celle de l'un de ses champions qui n'envisage pas autre chose que la victoire en s'engageant dans une compétition, la voix de l'un des plus impitoyables bretteurs que l'escrime a connu et, selon certains, du plus grand des fleurettistes de tous les temps. Champion précoce, Christian Doriola aura, en individuel et en équipe, empiler les médailles d'or des championnats du monde et des Jeux olympiques auxquels il participa entre 1947 et 1958. Gagner, bien sûr, s'entraîner dur, évidemment, pour atteindre ce but, mais à condition de ne jamais cesser d'y prendre du plaisir, de ne jamais cesser de s'amuser au fleuret comme à un jeu d'enfant. C'était ce qu'il rappelait dans l'émission que nous allons entendre, un numéro de « La légende du sport » que lui consacraient Joël Spindel et Denis Soula en 1999. Celui que les Anglais surnommaient D'Artagnan depuis les Jeux de Londres de 1948 revenait notamment sur son parcours éblouissant aux Jeux d'Helsinki de 1952. Et en sachant faire comprendre la beauté de son sport, justifiait son opposition au contrôle électrique qui s'était imposé dans les compétitions de fleuret à partir de 1956. Ce qui, cette année-là, ne l'avait d'ailleurs pas empêché de remporter une médaille d'or de plus en individuel aux Jeux de Melbourne. La légende du sport, Christian Doriola, première diffusion sur Radio Bleu, le 13 juin 1999.
La légende du sport, Denis Soula, Joël Spindel.
Est-ce que Doriola actuellement ne souffre pas justement de son jeune âge? Est-ce qu'il n'est pas un peu fatigué?
Je ne pense pas que Christian Doriola soit si fatigué. Je pense qu'avec ses études, il ne peut pas s'entraîner régulièrement. Il est actuellement à Montpellier. Il faudrait qu'il subisse des confrontations avec les escrimeurs parisiens. Et là, je pense qu'il se maintiendrait toujours à son niveau.
En 1948, aux Jeux Olympiques de Londres, un jeune catalan de 19 ans remportait avec ses camarades l'épreuve du fleuret. Escrimeur précoce, ce bretteur talentueux était aussi un acharné de la discipline, un élève attentif, un passionné de sport et de compétition. Champion olympique, champion du monde, une voie royale lui était promise. Mais aux années d'insouciance succédèrent les années du doute. Déménagement, études et maladies ébranlèrent les certitudes de l'escrimeur. Au début des années 50, le coup d'arrêt est sévère, mais l'épreuve fortifie le mental de Christian Doriola.
À quelques mois des Jeux d'Helsinki, en cette année 1952, journalistes et maîtres d'armes se perdent en analyse et en pronostics. Reverra-t-on l'élégant de Perpignan sur le parquet olympique? Réussira-t-il à repousser les assauts des éternels rivaux des Français, les Italiens, forts en poignet et revanchards?
Maître Battesti, voulez-vous mettre un peu de baume dans le cœur de nos auditeurs lointains en nous donnant un petit espoir à propos des prochains Jeux Olympiques? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut gagner?
Mais les prochains Jeux Olympiques, je pense que nous les gagnerons. Nous les gagnerons surtout si nous faisons la préparation correctement. Je ne comprends pas qu'un escrimeur fasse l'entraînement technique et non pas l'entraînement physique. Il faut les rassembler dans un camp et les faire exécuter des matchs de jour et de nuit comme ça se présenterait aux Jeux Olympiques.
Par conséquent, ça devient à ce moment-là une question d'application et non plus une question d'école. Il faut se mettre dans l'ambiance des Jeux Olympiques dès maintenant.
L'école française est très bonne, c'est surtout une question d'entraînement. Et je dois ajouter que la direction générale est très généreuse vis-à-vis de la Fédération française d'escrime et qui pourrait s'entraîner soit à l'Institut national des sports, soit dans un camp que le commandant Montand, président de la Fédération française d'escrime, choisirait.
Eh bien, Maître Battesti, il nous reste à vous remercier infiniment et espérons que l'escrime française triomphe, comme vous le prévoyez, aux Jeux Olympiques l'an prochain. Merci, Maître.
C'est mon vœu le plus cher.
Ces Jeux d'Helsinki, comment ils se passent? Comment ça se déroule?
Ces Jeux de 52 se passent, pour moi, ils se passent comme dans un rêve.
Christian Doriola.
J'avais donc préparé exactement comme je l'entendais. J'avais travaillé ma technique au maximum. J'avais travaillé ma forme au maximum, pas trop pour ne pas être saturé. Je suis arrivé aux Jeux de 52. Dans le fond de moi-même, j'étais presque sûr de les gagner. Je ne voyais pas qui pouvait me battre. On commence par l'épreuve par équipe, où je ne perds pas un seul match. Je plane sur le contre l'Italie, je fais 4 victoires sur 4 matchs, je reçois 3 touches. Et le lendemain, j'en tire l'individuel. Et là, j'ai le contre-coup de la secousse. À l'individuel, la concentration que j'avais dépensée pour l'épreuve par équipe m'avait usé complètement. Et au premier tour de l'individuel, je suis en difficulté. Je suis dans une poule où je suis jugé par un Italien. Lequel Italien, voyant Doriola en difficulté, se dit « Mais je vais donner un petit coup de pouce. Ça ne le fera pas sauter. » Enfin, ça, c'est moi, c'est mon raisonnement. Mais en discutant après, 10 ans après ou 15 ans après, je crois que mon raisonnement était bon. Donc, cet Italien se dit « Je vais donner un petit coup de pouce. » Ça le fera peut-être pas sauter, mais ça va le faire souffrir. Ce sera des forces en moins qu'il aura pour tirer la finale. Je vais trouver ce président du jury italien dans un coin, je lui dis de tout. Et je vais tirer la finale. C'était une finale de 9. Donc il y avait 8 matchs. 8 matchs, 5 touches par match, 5 fois 8, 40. Je donne 40 touches et je dois en recevoir 9 ou 10. J'étais toujours concentré, donc j'étais... Enfin, je peux dire que les Jeux de 52, j'ai plané sur les Jeux de 52.
Tout le monde a dit, Doriola, il est en état de grâce, il est au sommet de son art. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est aussi fort?
On ressent le... Disons que c'est le... La satisfaction absolue. Faire ce que l'on veut, au moment où l'on veut, sur l'adversaire que l'on veut, et chaque fois des coups différents, c'est exactement le summum, c'est ce que l'on recherche. Pendant toutes ces années d'entraînement, on cherche une chose, c'est faire ce qu'il y a à faire. Par exemple, à un Italien qui s'appelle Bergamini, je lui ai fait 5 fois le même coup. Et il savait que j'allais lui faire, mais je lui faisais dans de telles conditions que je le faisais réagir. Au moment où il allait marcher, au moment où il allait changer le fait d'engagement, au moment où il allait préparer quelque chose, moi je lui faisais une action, je lui faisais une feinte et il réagissait. Et je m'arrangeais pour que ce soit toujours la même réaction. Et je le réussissais. C'est le summum.
C'est ça être un tireur de tête? Parce qu'on a dit Doriola, c'est un tireur de tête.
Non, on a tout dit de Doriola. On a dit que c'était un tireur de tête. Je pense que ça, c'est être un tireur de tête. Mais par exemple, il y avait un journaliste de l'équipe qui s'appelait Armand Lafitte, un jour qui avait mis dans un de ses articles, le titre était « Science ou inconscience de Doriola », pour dire qu'il trouvait que je prenais des risques fous. Et c'était justement, c'était pas des risques fous, moi je savais que c'était pas un risque fou. Je sentais bien que l'adversaire le ferait ça. Alors j'y allais les yeux fermés. D'où l'inconscience dont on... que l'on m'attribuait.
Allô Paris, ici Helsinki, nous sommes préparés pour la transmission.
Ici Helsinki, nous vous avons annoncé hier soir la victoire de l'équipe de France de fleuret par équipe, première médaille d'or que les Français ont remportée au cours de ces 15e Jeux Olympiques. Aujourd'hui, au début de notre émission de cet après-midi, je voudrais vous présenter deux des artisans de cette victoire, Tristan Doriola et Adrien Remel. Nous les avons réunis autour du micro et nous allons bavarder quelques instants avec eux. Tristan Doriola, d'abord, vous avez hier connu une forme absolument splendide. Vous avez gagné vos 4 matchs, je crois.
J'ai gagné mes 4 matchs contre l'Italie, c'était surtout ce qui importait.
Et vous avez battu Mangiarotti et Nostini par 5-0.
Oui, c'est ça.
C'est la première fois que vous les battez par ce score?
C'est la première fois, oui, surtout Nostini. Mangiarotti, habituellement, je le bats assez facilement et Nostini, c'est un adversaire très difficile.
Quel est l'Italien le plus difficile à battre?
Nostini.
Nostini?
Oui.
Et vous l'avez quand même battu 5-0.
Oui, mais il n'était pas très en forme.
Oui, enfin ça c'est vous qui le dites, mais je crois que lui n'est pas du tout de cet avis. Bon, quelles étaient les autres équipes qui étaient également intéressantes au cours de ce tournoi?
Il y avait la Hongrie qui a amené une très jolie équipe, et l'Égypte. C'est la première fois, je crois, depuis 5 ou 6 Olympiades que la Belgique ne tire pas la finale par équipe.
Et quel âge avez-vous, Doriola ?
24 ans.
24 ans ? Et vous tirez depuis combien de temps déjà dans l'équipe de France ?
Depuis 1947.
1947, ça fait donc 5 ans.
Ça fait 5 ans, j'avais 18 ans et demi, bon. 19 ans.
Eh bien, bravo Doriola, puisque hier, vous avez été certainement le tireur qui a fait la meilleure impression.
On va essayer.
Merci Doriola. Maintenant, nous allons bavarder avec Adrien Rommel. Adrien Rommel qui, hier, a remporté 2 victoires au cours de son match contre l'Italie. La victoire des Français n'est pas du tout contestable maintenant.
La victoire a été très nette, comme vous l'avez vu, mais vous savez, il faut surtout que vous sachiez que ce n'est pas seulement le France-Italie qui compte, ce sont tous les matchs. Nous avons nos camarades Netter, Buant, qui ont fichu un vieux coup de collier.
Bien sûr.
Et nous ont permis justement d'arriver frais dans le France-Italie. Et c'est une victoire d'équipe, des 6 hommes et non pas seulement des 4.
Bien sûr, et je suis très heureux que vous leur rendiez hommage. Je l'aurais fait si vous ne l'aviez pas fait.
52, Helsinki, vous êtes sur le podium. C'est aussi la rencontre. Vous retrouvez votre cousin Pierre Jonker qui est là. C'est une affaire de famille, Helsinki.
Helsinki, c'était merveilleux pour nous deux parce que, disons que la première médaille d'or française des Jeux d'Helsinki était venue avec l'épreuve par équipe dont je faisais partie. Et la dernière médaille des Jeux d'Helsinki, c'était mon cousin au concours hippique. Alors, bien entendu, moi j'étais au stade le dernier jour. J'avais fini de tirer, je me baladais, j'allais partout. J'étais au stade le dernier jour. Et le dernier jour, quand mon cousin gagne, moi j'étais dans les tribunes. Le service d'ordre était beaucoup moins sévère que maintenant. Quand mon cousin gagne, je suis sur la piste pour le féliciter. C'était interdit d'y aller, mais sans problème.
Est-ce qu'il portait votre fameuse casquette blanche que vous lui avez donnée ?
C'est une casquette blanche qui me venait d'un plongeur qui s'appelait Mulin Gozen, qui m'avait donné cette casquette blanche comme fétiche. Et moi, je l'avais donnée à mon cousin, mais bien entendu, elle ne remplaçait pas la bombe pendant la course.
On parlait il y a quelques instants donc de ces assauts par équipe qui vous avaient fatigué. Mais pour vous, il n'y avait pas de question à se poser. Vous auriez de toute manière tiré par équipe avant de tirer un individuel.
Oui, les joies ne sont pas les mêmes. Mais quand on est avec une bonne équipe et que l'on gagne par équipe, c'est peut-être une joie qui est partagée. Donc on pourrait croire qu'elle est moins forte. Mais moi, j'ai retiré autant de plaisir à gagner par équipe qu'à gagner à l'individuel. Je ne peux pas dire que je préfère gagner l'individuel ou l'équipe.
Est-ce que c'est une jouissance particulière, Christian Doriola, d'être le gamin de l'équipe et de participer avec tous ces gens qui sont quand même plus âgés que vous à les faire gagner, à vous faire gagner ?
Non, parce que le gamin de l'équipe, une fois que l'on mettait le masque sur la tête, c'était plus le gamin de l'équipe. C'était une équipe qui était constituée par 4 tireurs avec 2 remplaçants possibles. Et c'était une équipe complète, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de règle spéciale pour le gamin.
En 1952, à 24 ans, vous avez tout gagné. Champion du monde plusieurs fois, champion olympique cette fois. Qu'est-ce qui va vous motiver encore pour continuer ?
Eh bien, moi j'ai fait de l'escrime pour mon plaisir. Tout le temps. Quand je vois des gens qui disent que nous avons fait des sacrifices pour faire notre sport, nous avons fait des sacrifices pour ceci, ça ne m'intéresse pas. Tant que je me suis amusé à faire de l'escrime, tant que je suis allé à la salle d'armes avec plaisir pour prendre la leçon, pour tirer avec l'un ou avec l'autre, tant que j'ai eu ça, j'ai continué. Et le jour où ça a commencé à m'ennuyer ou à me fatiguer trop, à ce moment-là, je me suis arrêté.
Souvent, les sportifs disent que lorsqu'ils sont en forme, ça se passe bien. Et vous, vous auriez dit que lorsque vous étiez heureux, vous étiez en forme. C'est vrai ?
Oui, peut-être. Je pense que pour être en forme, déjà, il faut être heureux. Peut-être il ne faut pas seulement être heureux, il faut peut-être s'entraîner aussi. Mais je pense que ça va de pair. Pour être en forme, il faut être heureux. Et quand on est heureux, on a beaucoup plus de chances d'être en forme et de faire une bonne compétition que lorsque les choses ne vont pas bien.
Heureux, Christian Doriola, vous allez l'être encore en 1953, parce que vous êtes champion du monde à Bruxelles. Mais là commence à se profiler une révolution dans l'escrime, à l'instigation des Italiens. Hein, ils prônent l'escrime électrique. C'est peut-être pour eux la seule chance de vous battre, c'est-à-dire changer un petit peu la règle du jeu. Qu'est-ce qui va se passer ?
En 1953, ce n'est pas encore tout à fait le fleuret électrique. Le fleuret électrique commence à sortir milieu 1954, à peu près. Et effectivement, je pense que mon vieil adversaire, Eduardo Mangiarotti, qui est tiré à l'épée et au fleuret, et qu'il n'arrivait pas à me battre au fleuret. Espérer en passant au fleuret électrique que ça se rapprocherait un peu de l'épée électrique, où il excellait. Il disait peut-être qu'avec quelque chose qui se rapproche de l'épée électrique, j'arriverai à le battre. Mais malheureusement pour lui, ça ne s'est pas passé comme ça.
Qu'est-ce qui caractérisait justement ce contrôle électrique qui ne vous plaisait pas ?
D'abord, je trouvais que ça fonctionnait bien avec le fleuret qui n'était pas électrique. Donc je ne voyais pas pourquoi on allait changer. Ensuite, je pensais que le fleuret électrique amènerait des actions. Comment je vous dirais ? C'est un état d'esprit. Lorsqu'on tirait au fleuret avant le fleuret électrique, l'état d'esprit, c'était de toucher son adversaire en portant une action la plus correcte possible. Et quand le fleuret électrique est arrivé, le but n'était plus de porter l'action la plus correcte possible, le but était d'allumer la lampe. Et en allumant la lampe, si on était suffisamment habile à se contorsionner en déplaçant la cible, on pouvait éviter la pointe de l'adversaire, mais pas en faisant de l'escrime.
En faisant de la gymnastique.
Ou des acrobaties.
Ce passage à l'électrique, ça a donc favorisé les Italiens qui, en effet, pouvaient user de leur force.
Nous avions un jeu donc plus fin que les Italiens. Les Italiens avaient le fleuret attaché au poignet, avec une bande qui faisait un mètre et qu'ils entortillaient tout autour du poignet. Ça faisait corps. Tandis que nous le tenions simplement avec les doigts. Et le système électrique que l'on mettait en place, au bout du fleuret, qui alourdissait le fleuret. Et nous, ça nous gênait parce qu'on le tenait qu'avec les doigts. Donc il a fallu que nous nous adaptions à ce poids supplémentaire. Tout ça, c'était extrêmement complexe.
Vous disiez que ça revenait à faire de la dentelle avec une aiguille à tricoter ?
Fait, je disais que c'était faire de l'escrime avec des piques lacédémoniennes. C'était plus dur que ça, ouais.
Peut-être un peu désarçonné par cette nouvelle technique, vous allez perdre au championnat du monde en 55 contre un Hongrois. Et est-ce que ça va décupler votre envie de participer aux Jeux de Melbourne en 56 et de les gagner ?
Là, il y a une double question. Alors, la première question, je perds les championnats du monde 55 derrière le Hongrois. Pour nous, ça avait été terrible. À l'épreuve par équipe, on arrivait avec des fleurets plus ou moins conformes. Les fleurets devaient avoir une forme spéciale. La pointe devait accrocher suffisamment pour pas glisser le long de la veste. Nous n'avions pas des lames de bonne qualité. Donc nous tirons par équipe, nous sommes largement battus par équipe, nous terminons même pas dans les trois premiers. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que nos pointes n'étaient pas les mêmes que les pointes des autres. Nos pointes accrochaient mal, c'est-à-dire on touchait l'adversaire et notre pointe ne s'enfonçait pas, donc la touche ne marquait pas. On change tous nos fleurets. On achète toutes les lames aux Hongrois et on monte nos fleurets sur nos poignets à nous. Mais une lame de fleuret, ça se fait. On ne prend pas ça comme on prend le premier marteau qui vous arrive sous la main. Et on fait la courbure, on la travaille. Nous arrivons avec des lames neuves. Premier handicap. Deuxièmement, l'arbitrage. L'arbitrage, comme c'était la première fois qu'on tirait au fleuret électrique d'une façon sérieuse, les arbitres n'y étaient pas tellement habitués. Et ils avaient tendance à juger sur la lampe et non pas sur l'action. Le fleuret est une arme de convention. Il y a des règles qu'il faut respecter. Par exemple, vous menacez votre adversaire. Si votre adversaire se précipite sur votre pointe sans l'écarter, il a tort. Et moi, je me suis trouvé avec le tireur hongrois en barrage pour la finale, pour la première place, où je faisais des actions où moi j'étais persuadé d'avoir raison et où l'arbitre, qui n'avait pas l'œil assez rapide, à mon avis, ne voyait pas l'action que j'avais préparée et ne voyait que la lampe qui s'allumait du Hongrois. Alors les deux lampes s'allumaient, celle du Hongrois s'allumait un petit peu plus tôt, mais en escrime au fleuret, même si la lampe s'allume un petit peu plus tard, si votre action a été bien portée et celle de l'adversaire mal, c'est vous qui devez avoir raison. Et moi je me suis retrouvé à perdre les championnats du monde sur des actions que je considère litigieuses.
Vous êtes quand même deuxième.
Mais ça ne m'intéressait pas parce que j'étais contre le fleuret électrique. Pour pouvoir parler, je voulais gagner avec le fleuret électrique, pour dire je gagne avec le fleuret électrique, mais je suis toujours contre. Tandis que là, on me dit tu es contre le fleuret électrique parce que tu perds. Voilà, nous en étions après les championnats du monde de 55.
D'où Melbourne 56.
D'où Melbourne 56, où je me suis entraîné plus qu'en 1952, justement pour pouvoir tenir ce genre de raisonnement. Je veux gagner pour pouvoir parler. Et je me suis entraîné en 56, mais moins dans la joie qu'en 1952. En 56, il m'était interdit de perdre pour pouvoir tenir le genre de raisonnement avec le caractère que j'ai. Alors j'ai préparé 56 et je ne cherchais qu'une chose, c'était que le Hongrois se trouve sur mon chemin. Et en 56, il est quand même dans les 8 premiers. C'est une poule où chacun rencontre les 7 autres. Je bats le Hongrois 5-1. Et je gagne les jeux. Et là, je pouvais parler.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Je suis contre le fleuret électrique.
Que vous considérez que vous avez gagné dans pratiquement deux sports différents?
Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblaient. Il fallait les adapter, mais il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient.
Au retour des Jeux de Melbourne, vous vous seriez arrêté à New York et là, vous auriez passé une nuit à discuter avec un de vos anciens maîtres des assauts que vous auriez fait aux Jeux Olympiques de Melbourne. Et l'idée étant de parler. Toujours parler de ce que vous faisiez, des assauts, des combats.
C'est tout à fait vrai. J'avais préparé les Jeux de 52 avec le maître Allot, qui était à Montpellier à ce moment-là, et qui part en Amérique en 53 ou en 54. Et à mon retour, moi, en 56 de Melbourne, je m'arrête pour voir le maître Allot qui était en Amérique, avec lequel j'avais gagné les Jeux de 52. Et alors là, à 4 heures du matin, je suis allé le chercher, il habitait au-dessus de la salle, je suis allé le chercher, on a mis la tenue, on a commencé à discuter de trucs là. J'avais préparé les choses de 52, je lui ai expliqué comment j'avais gagné les choses de 56. Pour moi, c'était tout à fait normal.
Oui, mais c'est magnifique.
C'est ce que je vous expliquais, c'était le plaisir de jouer. Quand on fait du sport, la première chose à laquelle on pense, c'est jouer. Quand on a 8 ans, quand on a 5 ans, on joue. Et après, l'envie de gagner vient rapidement, mais on joue toujours. Et de temps en temps, j'entends un maître d'armes qui dit à un tireur qui se contracte trop, qui dit « joue un peu, joue !» Je me dis « celui-là, c'est un bon maître d'armes. »
Je vous posais une question que j'ai déjà posée à Daniel Morellon, le pistard.
Oui.
Vous disiez qu'à Perpignan, vous alliez voir des courses sur piste. L'escrime, comme cette course sur piste de vélo, tout se joue sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que chaque action est un duel. Et malgré cette précarité de votre sport, vous gagnez tout le temps. En 58, vous êtes encore champion du monde par équipe. De 47 à 58, vous gagnez toutes les grandes compétitions, pratiquement, hein, quelques exceptions près. Comment on fait pour être toujours à top niveau dans un sport aussi dangereux pour, dans la quête de la victoire?
Je pense que la comparaison avec Daniel Morellon me plaît beaucoup. Parce que Daniel, il a le caractère, il ne lâche jamais rien. S'il peut gagner, il gagne. Il ne saura jamais courir. Si la victoire lui passe à portée de fusil, c'est sûr qu'il va gagner. Peut-être on pouvait dire pas tout à fait la même chose de moi, mais enfin, ça se passait aussi au 20e de seconde. Et le 20e de seconde, quand vous êtes un fou de gagner, un fou de vous amuser et un fou de concentration, mais c'est vous qui gagnez.
En 1960, vous allez encore aller à Rome. Peut-être pour vous amuser, comme vous dites.
Et vous êtes porte-drapeau de la délégation française. Oui. Ce qui, d'ailleurs, vous fatigue un peu, je crois.
Peut-être que ça me fatigue, mais enfin, Rome, ça c'est pas tout à fait comme en 1948, parce que les choses ne se répètent pas, mais la même chose à Rome, je ne me suis pas trouvé au maximum de ma condition physique et de ma forme d'escrimeur. Mais c'est un peu normal, parce que à 20 ans, on est en forme tous les jours. Vous vous levez, vous êtes d'attaque. À 32 ans, vous avez peut-être un peu mal à une épaule quand vous vous levez, vous avez un peu mal dormi. Vous vous en rendez pas compte, mais vous n'êtes pas neuf comme à 20 ans. Alors si c'est un jour où vous n'êtes pas neuf, eh bien c'est plus difficile de gagner. Mais j'aurais bien aimé avoir 25 ans au moment des Jeux de 60.
Et de 64, et de 68, et de 72.
Ça non.
Vous allez quand même à 1970, 30 ans après 1940, où vous, déjà vous tiriez, vous êtes champion de France par équipe. Ils en avaient pas marre un peu, vos adversaires ?
Non, mais c'était pas les mêmes. Donc, ils n'en avaient pas marre.
C'était les enfants de vos adversaires ?
Par contre, moi, je m'étais bien amusé. Ça, c'est encore... Il y a une anecdote là-dessus. Quand je reviens à Montpellier, c'était en 63, le maître d'armes de Montpellier, que j'avais connu quand j'étais étudiant à Montpellier, 15 ans avant. Le maître d'armes de Montpellier, qui avait deux fils qui étaient jeunes, mais qui étaient déjà assez forts, me dit, tu devrais faire équipe avec nous. Et moi, je lui dis, je regarde les enfants. Il y en avait un qui avait 12 ans et l'autre qui en avait 14 ou 15. Je lui dis, si quand tes fils sont assez forts, moi, je ne suis pas trop vieux, je tirerai par équipe avec toi. Et ça se produit 6 ans après. 62, 68. Donc 68, les enfants étaient bons. Je dis, je remets la tenue, je tire avec vous. Je tirais en salle et j'allais m'entraîner comme ça pour mon plaisir. Et j'ai remis la tenue avec eux. On a tiré 3 ans et la troisième année, on a gagné les championnats de France par équipe.
Christian Doriola, vous qu'on a affublé des plus beaux surnoms, hein, Botticelli chez les ferrailleurs, D'Artagnan, on a même lu le Gérard Philippe du Fleuret, vous êtes considéré comme le plus grand fleurettiste de l'histoire. D'un mot, quel regard vous portez sur votre carrière ?
Première chose, c'est pas possible de dire si c'est le plus grand fleurettiste de l'histoire ou de sa génération. De sa génération peut-être, parce qu'on peut le comparer à ceux qui ont tiré avec lui. Mais moi, si vous me comparez à un Lucien Gaudin, si vous me comparez à un Mérignac, si vous me comparez à d'autres dont le nom ne me vient pas, mais qui peut dire que j'étais plus fort ou qu'il était plus fort que moi ? Tous ceux de la génération qui m'ont précédé vont vous en trouver, là, qui étaient plus forts que moi. Mais maintenant, ils sont morts, alors on ne peut pas le dire. Mais vous avez des Italiens aussi qui... Non, on ne peut pas dire que c'était le plus fort escrimeur de ma génération. On ne peut pas le savoir. Il n'y a pas de réponse.
Votre carrière, c'est le plaisir.
Ma carrière, c'est sûr que c'est le plaisir. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de faire le sport que j'ai pratiqué. Parce que l'escrime, comment je vous dirais, si je compare avec les patineurs, si je compare avec les nageurs, ils ne s'amusent pas à l'entraînement. Tandis que nous avons un sport de combat où on ne se fait pas mal. Donc nous avons un adversaire devant nous, et il faut résoudre les problèmes qu'il va vous poser. Alors ça ressemble un peu, avec les efforts physiques en plus, mais ça ressemble un peu à une partie d'échecs. Vous faites croire que vous allez faire telle chose, vous ne faites pas telle chose, vous en faites une autre. Et jusqu'au dernier moment, votre adversaire croit que vous allez faire ceci. Et le plus jouissif de tout, c'est d'arriver à faire croire à votre adversaire que vous allez faire quelque chose et de faire exactement le contraire. Et lui, il marche jusqu'au bout. Alors ça, vous le trouvez aussi bien à l'entraînement que vous le trouvez à la compétition. Donc vous allez à l'entraînement en vous amusant. Et c'est le secret.
Moi, j'ai une image de vous, c'est votre sourire sous votre casque. Juste avant une compétition.
Oui, quelquefois, c'était quelquefois pour camoufler. Un peu, je m'amusais, mais quelquefois aussi, c'était pour camoufler une anxiété profonde. Peut-être.
Bientôt, les visières des casques seront transparentes et l'on verra les visages des escrimeurs. Christian Doriola, énigmatique et dubitatif, garde son sourire, à l'abri du temps, dans l'ombre protectrice du mystère.
Merci à lui et merci aussi à Céline Desroches de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Vous venez d'entendre Christian Doriola au micro de Joël Spindel et Denis Soula sur Radio Bleu le 13 juin 1999.